people get faster. Hit me. Bonsoir, vous êtes dans votre émission Africa Venus Sport, 20e édition, saison 8 et acte 5 pour la Coupe d'Afrique des Nations. On tient à remercier les invités qui vont intervenir sportivement. Je fais allusion du côté du Sénégal, Ousmane Dieng, James Kerel, consultant maison de la Coupe d'Afrique des Nations, Bertin Meriadec, le spécialiste de Gouren, la lutte bretonne. Et sans oublier nos invités, le fan de Lyon de l'Atlas, Eman Yadid, et notre sage du football, du ballon rond, Alain Elio. Sans oublier vraiment le plus grand athlète au niveau de Côte d'Amour, notre Vincent Le Dauphin, qui va nous donner les dernières actualités fraîches athlétiques de Côte d'Amour. Merci, et vous avez vraiment fait le bon choix radiophonique.
On commence en douceur ce week-end avec le groupe briochin de la charmante briochine Niro, avec le titre Mayday. Voilà, c'est ce genre de titre qu'on aime bien vous passer sur Radioactive. Du pur beurre briochin. Tout de suite, on va retrouver un événement avec Vincent Le Dauphin qui va nous parler du meeting sur la halle Marivonne du Puror. C'est demain soir. Ne manquez pas cette occasion. Tout de suite, Vincent Le Dauphin. Bonsoir Vincent Le Dauphin.
Bonsoir.
C'est un grand plaisir de t'accueillir sur Radioactive ce soir. Ça fait depuis quelques temps qu'on pense bien à t'inviter, mais là vraiment l'occasion était si belle parce que tu es en train de préparer avec le Saint-Brieuc Athlétisme un magnifique meeting à la halle Marivonne du Puror. Est-ce que tu peux nous en parler, Vincent?
Alors merci pour ton invitation, Gaël. Alors bon, je suis pas le seul à préparer, c'est l'ensemble du club effectivement, comme tu le dis, qui prépare un meeting ce samedi à la salle. Donc c'est un meeting qu'on a lancé un peu tardivement, mais compte tenu de la situation sanitaire, il y avait des doutes sur les possibilités. Voilà, c'est un meeting de lancement, c'est le premier meeting du Saint-Brieuc Athlétisme pour animer l'équipement du territoire et pour essayer de proposer une offre spectacle sportif attrayante pour l'agglomération.
Alors dis-nous-en un petit peu plus sur l'attraction de cette compétition. Quels sportifs seront présents? Quelles seront les têtes d'affiche?
Alors c'est une formule un peu particulière parce qu'on a souhaité innover et proposer une formule en duo. Ce qui est une première, c'est-à-dire que les athlètes forment un couple entre un homme et une femme sur la même épreuve, le 60, le 400, le triple saut, et le classement se fera à l'addition des deux performances à la table de cotation, puisqu'à chaque performance correspond un certain nombre de points. Donc on a souhaité lancer cette formule qui a reçu un très bon écho au niveau des clubs. Alors tout le monde ne sera pas forcément en duo, mais le classement en duo sera privilégié. Et on a eu un très bon retour sur les engagements pour l'instant, puisqu'on a plus de 220 engagés. Et donc voilà, avec des belles têtes d'affiche. Alors on recevra, en particularité, on recevra une délégation israélienne qui vient visiter les installations un petit peu pour repérer un petit peu les installations qu'il y a en France, et donc ils participeront à la compétition avec des athlètes de bon niveau, puisqu'on a de très bon niveau même, puisque certains ont participé au championnat du monde junior. Voilà, on accueillera également les meilleurs bretons sur les différentes épreuves, sur le 200, sur le 400, sur les haies, sur le saut. On aura un beau concours de saut à la perche qui réunira beaucoup d'athlètes du Grand Ouest et qui devrait monter jusqu'à 5 mètres, voire 4 mètres chez les filles. On a également beaucoup d'athlètes de l'interrégion qui viennent, parce que la date est intéressante et que la formule leur plaît. Et on aura surtout un superbe concours de poids, puisqu'on va accueillir le recordman de France, Frédéric Dagé, qui va lancer pour la première fois à Saint-Brieuc, donc 20m75. Il va lancer donc chez nous à Saint-Brieuc, et on a réussi à faire un beau concours de poids en duo. Exclusivement avec Frédéric plus les meilleurs Bretons. Yann Moisan, qui a fait troisième au championnat de France élite l'an dernier, sera présent. Laurine Thomas, qui est championne de France du javelot mais qui est aussi cinquième au poids, sera présente. Enfin, on aura les meilleurs Bretons et aussi le meilleur français, du coup.
Un menu très très alléchant pour le moins. Je te félicite, Vincent, parce que bien sûr c'est une grosse organisation du Saint-Brieuc Athlétisme, on vient de le dire, mais c'est aussi l'événement à Marie-Yvonne du Pureur. Ton passé d'athlète peut te permettre certainement de dire beaucoup de bien de cet outil.
Ben, l'outil, oui, au-delà du fait d'avoir été sportif en tant qu'entraîneur et enseignant, oui, l'outil est exceptionnel pour l'agglomération, que ce soit pour les enfants qui pratiquent, qui découvrent l'athlétisme dans les clubs, les scolaires qui pratiquent cette activité dans leur programme de PS, et pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est vraiment une salle exceptionnelle qu'on attendait depuis longtemps. C'est un résultat remarquable, et en termes de structure, qu'il convient maintenant d'animer au mieux. Pour la faire vivre et lui donner une identité.
C'est bien sûr un gros travail de fond de préparer un tel meeting. J'imagine que dans les contacts que tu as eus avec notamment la délégation israélienne, il y a, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, on se projette sur Paris 2024.
Oui, dans les échanges qu'on a pu avoir avec certains, oui, il y en a qui envisagent fortement, forcément, de participer à Paris 2024. Et puis là, en l'occurrence, pour l'Israël, c'est même une délégation qui envisage de prévoir un camp d'entraînement dans la perspective des Jeux. Donc voilà, mais on aura aussi des athlètes nationaux qui viseront Paris 2024. Hein. Frédéric Dagé forcément au lancer de poids, mais on en aura aussi d'autres qui pourraient ambitionner de tenter une qualification pour Paris 2024.
Un petit mot forcément sur les prescriptions sanitaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment le public pourra être reçu?
Alors le public sera reçu selon les codes habituels sanitaires, dans le respect des gestes barrières, avec le port du masque. L'entrée est gratuite, simplement elle est conditionnée au pass vaccinal, comme la loi l'impose. Et donc voilà, on va respecter ces mesures qui globalement sont quand même plutôt bien respectées sur les compétitions d'athlétisme en ce moment. J'ai pu l'observer ces dernières semaines. Les athlètes font quand même preuve de responsabilité et respectent plutôt bien, je trouve, ces gestes barrières. On proposera une mini restauration dans le respect du protocole hôtel café restaurant, donc à savoir un service à table et avec des consommations assises, quoi. Ça mobilise toutes les forces vives d'un club, que ce soit nos athlètes forcément qui vont participer à ce meeting pour la plupart, que ce soit les dirigeants dans la capacité d'organisation, et aussi nos parents d'athlètes ou nos sympathisants qui vont être nos bénévoles sur cette compétition et qui ont déjà répondu massivement de manière positive pour l'événement.
Un mot forcément sur le Saint-Brieuc Athlétisme, puisque avait lieu ce mois de janvier les championnats de Bretagne où le Saint-Brieuc Athlétisme a brillé. Est-ce que tu peux nous dire et nous parler un petit peu des différents athlètes qu'on retiendra?
Alors il y a eu deux championnats de Bretagne en fait. Il y en a eu un premier le 15-16 janvier, les épreuves combinées à Saint-Brieuc justement. Le club était parti prenant dans l'organisation, et deux athlètes ont particulièrement brillé, puisque Laurine Thomas s'est imposée à l'heptathlon et elle se positionne au pentathlon, pardon, et elle se positionne comme une qualifiable au championnat de France. Et Brieg et Collant a explosé également sur cette compétition, puisqu'il est champion de Bretagne junior de l'heptathlon cette fois-ci, et il pourrait prétendre aussi à une qualification au championnat de France, sachant que les épreuves combinées sont sûrement l'épreuve la plus difficile d'accès au championnat de France, parce que seuls les 16 meilleurs Français sont qualifiés, alors que dans d'autres disciplines, on va jusqu'à 24 ou 32. Donc c'est vraiment deux épreuves compliquées. S'est enchaîné ensuite le championnat de Bretagne, épreuve individuelle le week-end dernier à Rennes. Et alors là, bah oui, le club est revenu avec pas mal de médailles. Toujours pareil dans cet exercice, j'ai toujours peur d'en oublier, mais Oriane a brillé, puisque Oriane Le Corollaire a gagné la longueur et le triple saut. Romane Morvanou, qui est une nouvelle athlète aussi, ça fait longtemps qu'elle est au club, mais elle explose là au Bretagne, puisqu'elle a battu tous ses records et elle s'impose sur 200, et il me semble qu'elle est sur le podium au 400. Briec doit faire deuxième au 400. Clément Le Bianic était un peu blessé, il fait quand même troisième au 400. Laurine Thomas remporte le poids. Elle doit remporter également ou faire une médaille de bronze à la hauteur. Younely Froger sur les haies doit faire médaille de bronze sur les haies hautes seniors. Et Kylian Vinet doit être champion de Bretagne, qui a créé un peu la surprise. Kylian, qui a un nouveau cadet, il était minime l'an dernier, il est cadet première année, et il remporte le 60 haies cadet, donc il devient champion de Bretagne. Alors j'espère que j'oublie personne, parce que c'est un exercice difficile, mais voilà, ils m'en voudront pas si je les oublie. Et bon, de toute façon, dans l'ensemble, c'est vrai que on compte souvent les médailles en championnat, mais il y a pas non plus que les médailles qui ont leur importance. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont battu leur record, qui se sont accomplis et qui ont eu ce plaisir-là à performer aussi et à récolter les fruits de leur travail. Donc c'est aussi ça qu'on observe un petit peu au-delà des médailles dans les championnats.
Finalement, c'est tout à ton honneur d'oublier peut-être certains athlètes, parce que ça veut dire qu'il y a eu quand même de nombreux bons résultats. Je veux revenir en particulier sur les deux premiers que tu as annoncés, sur l'heptathlon et le pentathlon, je crois. Tu as forcément, toi, à ton niveau en tant qu'entraîneur, une importance particulière, parce que passer d'une compétition à une autre sur un système de combiné, ça doit demander là aussi des compétences acquises forcément avec les entraînements.
Bah, c'est sûr que les athlètes spécialistes de combiné, ce sont vraiment les athlètes complets. Très complet, et les athlètes patients par définition, c'est les athlètes qui passent une journée entière, voire deux journées entières sur un stade, et ils passent un peu par tous les états émotionnels, puisqu'ils ont cinq épreuves pour les filles en salle, sept pour les gars, et ils enchaînent d'une épreuve à l'autre, d'un record à l'autre parfois, quelquefois d'une contre-performance à l'autre. Donc c'est vraiment une épreuve complète d'un point de vue physique, psychologique, motivationnel, émotionnel, et faut être un athlète expérimenté sur ces épreuves-là. Ouais.
On va tâcher de bien combiner les choses pendant tout le restant de la saison, puisque après l'hiver viendra le printemps et l'été, avec là aussi de nombreuses occasions pour le Saint-Brieuc Athlétisme de briller. Et puis d'abord, on verra ces combinés également entre hommes et femmes sur ce meeting, le premier meeting de Saint-Brieuc à la Halle Marie-Yvonne du Pureur. Donc ce week-end, le 29 janvier, samedi 29 janvier, à partir de quelle heure?
Alors, l'ouverture des portes à 17h, le concours de perche démarre assez tôt, puisque ça prend traditionnellement un peu plus de temps, la perche. Donc, dès 17h30, il y aura la perche, et ça se conclura à 20h15, par des jeunes qui feront un relais.
C'est un vrai gros événement, Vincent, je le sais. Je pense que ce meeting est voué vraiment à changer de taille encore, à évoluer, parce que on se doute, tu as beaucoup de contacts avec beaucoup d'athlètes français. Ton nom, forcément, fédère. Et puis, cette halle, Marie-Yvonne Dupuron aussi fédère. Donc, forcément, je pense que ce meeting est vraiment voué à de grands lendemains.
Sur le territoire et sur la région Bretagne, il n'y a jamais eu de meeting d'envergure en salle, déjà. En extérieur, sur les pistes 400, le seul meeting national qui a perduré, c'est le meeting national Yannick Vezin à Saint-Brieux. On a monté jusqu'à 30 éditions, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas 30 éditions sur le Vezin, mais un peu moins, au moins 25. C'est un meeting, le club de Saint-Brieuc a démontré sa capacité à organiser des événements comme ça d'envergure. Et je pense que c'est maintenant que la salle a été construite et qu'un investissement fort a été réalisé par les élus sur cet équipement, l'occasion est évidente et nécessaire, j'ai envie de dire, d'organiser un meeting d'envergure et de se positionner dans le paysage national pour créer un spectacle sportif inédit en fait, et je pense qu'il plaira beaucoup à tous les spectateurs, mais les spécialistes d'athlètes, mais aussi les non spécialistes, les scolaires, les autres sportifs, parce que l'athlétisme a ça de particulier, c'est que dans une salle vont se dérouler peut-être 4-5 épreuves en même temps, et il y a forcément une épreuve qui va intéresser quelqu'un. Ça peut être du lancer de poids, du saut, du sprint, et un meeting d'athlétisme pendant 2-3 heures, c'est un vrai spectacle vivant continu en fait. Hein. Donc à nous de réussir à monter un événement comme ça qui mettra en valeur l'équipement de l'agglomération, qui mettra aussi en valeur la ville de Saint-Brieuc, le département des Côtes d'Armor et la région Bretagne au niveau national.
Vincent Le Dauphin ce soir qui est présent sur Radioactive. Pour mémoire, Vincent Le Dauphin, c'est effectivement les Jeux Olympiques d'Athènes où tu avais brillé. C'est une médaille de bronze au championnat d'Europe de 2005. C'est le grand spécialiste notamment du 3000 mètres steeple. Après Maïline Mekissi qu'on avait reçue au mois de septembre, hein, lors du championnat de France de 10 000 mètres pour la corrida de Langueux. C'est maintenant Vincent Le Dauphin qui est chez nous. Merci beaucoup Vincent d'être présent sur Radioactive. C'est vraiment, je pense que ça doit s'entendre dans ma voix, un immense honneur de t'avoir. Bravo Vincent.
Merci à toi Gaël, et puis bah à samedi.
À samedi, forcément à samedi. Les choses bougent, ta vie en main. En parlant de course, bien sûr, je vous recommande ce week-end d'aller voir également à Plouran le Trail Glazig. Africa 22 Sport est bien sûr partenaire du Trail Glazig. Et voilà, c'est une magnifique manifestation. Tout de suite, Yao retrouve Mériadec Bertin du Gouren. Vous savez, ce sport qui est en fait la lutte bretonne. Donc on va parler lutte tout de suite avec Yao et Mériadec Bertin.
Comment va Monsieur Mériadec?
Ça va, bonsoir à tous, ça va Yao?
À Africa 22 Sport, t'envoies la santé Mériadec, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas pratiquer la belle discipline qui est le Gouren.
Oui, on a la forme, on se prépare pour organiser la compétition de Bacol de lutte écossaise le samedi 5 février à la salle de rebond à Langueux.
Cette belle discipline qui est le Gouren, et justement pour l'international Bacol, c'est quoi déjà les gens qui sont profanes, qui sont novices, qui écoutent le station Radioactive 101.9?
Donc samedi 5 février, on organise le Bacol, c'est la lutte traditionnelle d'Écosse. Nous, on est pratiquants du Gouren en Bretagne, c'est la lutte bretonne. Et la grosse différence, c'est qu'il y a une garde imposée, les résultats sont assez simples, c'est une lutte très explosive où on compte juste la chute. En 3 chutes, on gagne le combat.
Avec la situation sanitaire et ce qui se passe actuellement au niveau de la délégation, il va voir combien de pays ou de nombre de pratiquants qui seront présents ici à Langueux dans la salle multisport le rebond.
Bah vous savez, ça a été un peu compliqué d'organiser la compétition. On savait pas vraiment quelle délégation et dans quelles conditions on pouvait les accueillir. On est un peu déçus, on comptait sur les Islandais, Anglais, Écossais, mais pour eux c'était trop compliqué, ils ont pas pu honorer leur présence. Mais quand même, on peut voir que les Sardes, les Léonais, c'est une région d'Espagne, et la Tunisie, et un Anglais aussi va réussir à venir pour le 5 février.
Pour avoir plus d'informations un peu plus approfondies, où est-ce qu'ils peuvent en procurer?
Bah d'abord le traditionnel, il y a le Facebook du Skol Gouren Bro Saint-Brieuc, le site de la fédération où vous pouvez taper Gouren, Gouren sur le Google, vous allez trouver plein d'informations un petit peu pour découvrir ce qu'est la lutte bretonne et autour de ça, les luttes traditionnelles d'Europe.
On voit bien ta campagne de propagation que tu fais au profit de cette discipline. J'ai fait allusion à l'école Diwan et avec le CE, le CP, le CE de Marielle qui est encore sélectionné au niveau de la finale à Pontivy. Tu peux nous dire quelques mots concernant cette campagne au profit de cette discipline?
Bah en fait là en gros c'est les écoles, ça c'est la culture bretonne et des chants bretons, ils ont un concours de chants en breton et l'école Diwan de Saint-Brieuc a organisé, l'école Diwan c'est l'école bretonne de Saint-Brieuc a organisé, a chanté le Brogo Mazadou, l'hymne régional de la Bretagne et on a demandé à l'école de faire participer les enfants pour chanter le Brogo Mazadou après le serment des jeunes lutteurs à partir de 11h30.
Tu as eu la chance il y a quelques années aussi du côté du Sénégal où tu as vu ou assisté même à la lutte sénégalaise. Tu peux nous remémorer pour faire un petit clin d'œil entre l'Afrique et la Bretagne sur le plan de la lutte.
Ah bah pour moi l'Afrique c'est une terre de lutteurs et j'ai eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai pas lutté avec les grands champions mais j'ai pu lutter un petit peu sur la plage et quand j'ai découvert la reconnaissance qu'il y avait pour ce sport, pour une lutte traditionnelle, j'étais impressionné de voir des grands champions alors que bon la lutte bretonne ça reste un petit peu méconnu. Et alors que en Afrique, les lutteurs sont reconnus. Après, c'est une autre culture, mais c'était des grands moments, des grandes rencontres. Et vraiment, si je pouvais un jour y retourner, ce serait avec grand plaisir. Mais là, je commence à me faire vieux.
La lutte, c'est la première discipline sportive au Sénégal, plus populaire que le football, puisqu'il y en a d'autres régions aussi en Afrique qui en pratiquent énormément ces disciplines. Je fais allusion comme le Niger, le Congo, le Togo, et puis même en Mélada, que tu avais eu d'autres opportunités de faire amener certains lutteurs aussi africains concernant ton événement de discipline concernant la lutte.
Bah, on espérait voir une délégation de Congolais venir cette année, présenter aussi, c'est l'occasion de présenter leur lutte et découvrir autre chose. La lutte, c'est aussi s'ouvrir aux autres pour découvrir ce qui se passe dans les pays étrangers. Donc bon, ça n'a pas été possible, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. On compte sur eux, on a des bonnes relations, et puis bah la lutte, ça reste le sport le plus simple et le plus international.
Les bénévoles, les gens ou même les partenaires aussi, c'est très important de rebondir et de penser à eux, non, hein, Bertin Mériadec.
Bah, on a tout le SCOL, le club, on a toujours eu la détermination d'organiser l'événement, quoi qu'il se passe. On a toujours fait comme si on aurait pu l'organiser sans aucun problème. On a continué, on a toujours avancé parce que bah, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre des objectifs. Et sans se mettre de barrière, il y a beaucoup de bénévoles. C'était beaucoup de réunions avec tous les bénévoles du club. Le jour J, on attend beaucoup aussi des parents qui pouvaient pas forcément être dispo, mais on compte sur eux le jour de la compétition. On a eu aussi le soutien des partenaires financiers, des partenaires privés. Donc, on a sollicité beaucoup les commerçants de la commune de Langueux qui nous ont soutenus. Et aussi, on peut remercier la mairie de Langueux pour tout ce qui est prêt du matériel et l'adjoint Eric Toulguat qui a été porteur pour ce projet. Et c'est d'ailleurs pour ça que on l'organise à Langueux grâce au soutien vraiment des élus et de la mairie de Langueux.
Qu'on peut dire aussi que l'outil stratégique que la commune, la mairie vous a attribué, je fais allusion comme la multisalle sport de Langueux, le rebond, ça c'est pas mal ça quand même, non? C'est quand même un bel outil, non?
Ah bah c'est un bel écrin même. Je la connais pas tant que ça. Je l'ai vu en construction. Voilà, faut profiter. Les collectivités investissent dans du matériel, dans des locaux. Et je pense que c'est important aussi de les faire vivre et les mettre en valeur. Et on le met en valeur et ils nous mettent en valeur aussi. Et venez nombreux le 5 février pour aussi vous rendre compte de l'ambiance qu'il peut y avoir dans un sport qui est une lutte traditionnelle. Le but, c'est d'être toujours dans la découverte, donc faut pas avoir de préjugés. Faut se dire, la lutte, c'est une chose, mais c'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on parle lutte, c'est lutte olympique et en fait ça n'a rien à voir. Donc venez nombreux, c'est une lutte qu'on peut retrouver au Highlands Games, pour ceux qui connaissent, c'est les jeux de force en Écosse. Donc il y a du défi et c'est facile à comprendre. Et c'est super explosif.
Après l'événement du 5 février, il y a d'autres événements aussi qui arrivent. Et si tu peux nous en parler un peu, je fais allusion du 10 février prochain, Bertin Mériadec.
Bah après, notre fédération de Gourenne, le Gourenne, c'est la lutte bretonne. Donc, mais on a beaucoup d'événements, on a beaucoup de rencontres tout au long de l'année. On a des challenges, on a des championnats départementaux, on a des championnats de Bretagne, on a les compétitions d'été, les compétitions jeunes, poussins. On a les stages. En fait, on est une fédération au même niveau qu'une fédération nationale. On a nos formateurs, on a nos professionnels, on a nos bénévoles, mais à la hauteur de la Bretagne.
Oui, merci beaucoup. On rappelle encore la date vraiment à cocher dans votre agenda, hein. International Bacol lutte écossaise, le samedi 5 février à 13h, la salle multisport à Langueux, le rebond. Et Africa 22 Sport via Radioactif aussi est partenaire sportif de ce bel événement.
Ouais, bah comme on dit en breton, bête contraire, toujours en avant. Mais je voulais aussi remercier notre parrain, le parrain de l'événement, Mathieu Rocabois, qui est multiple champion de cross-country, champion de Bretagne de cross-country, et récemment a fait troisième des championnats départementaux de cross-country en master. Je crois qu'on dit master maintenant et plus vétéran. Et après, bah, chez lui, je retrouve un peu l'état d'esprit sportif qu'on peut avoir aussi au Gourenne. Bah, on va de l'avant, on est compétiteur, on s'entraîne, mais on sait aussi partager nos compétences avec les autres.
Merci Mériadec, tu connais bien la station, hein. Tu es toujours la bienvenue, n'hésite pas avec d'autres projets. Donc la porte elle est toujours ouverte du côté de Radioactive.
Merci à vous, au revoir.
Il est sympa ce petit morceau de la briochine Mirou, Mayday, à retrouver dans vos bacs. Tout de suite, on passe à la CAN au football avec Yao qui retrouve son envoyé spécial au Sénégal, Omar Dieng. Bonne soirée à tous.
Bonsoir Ousmane Dieng.
Oui, bonsoir.
Ousmane Dieng, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur ceux qui ne dégustent pas dans les huit carrés, là, dans les huit éléments, là, les huit équipes. Là.
Je pense que les principaux concurrents du Sénégal pour la victoire finale sont pratiquement tombés. Hein? Parce que là, vraiment, le Nigeria que je voyais comme étant le meilleur est tombé. L'Algérie, n'en parlons pas, c'est le meilleur football africain actuellement. N'est-ce pas?
Oui.
Le Ghana, c'est une équipe, c'est un pays de football.
Quatre fois champion d'Afrique.
Tout le monde le sait. Oui, et puis combien de fois demi-finalistes? Dis donc, ils ont l'un des meilleurs palmarès africains, le Ghana.
C'est vrai.
Donc, ils sont tous partis. Maintenant, je parle dans ma poule, c'est vrai que c'est extraordinaire de retrouver l'équipe de Guinée équatoriale sur mon chemin. Vraiment, il faut saluer la performance qu'ils ont pu faire. C'est une équipe très solide, qui joue en un bloc unique, un bon bloc. Les gens sont tous très, très proches. Bon, physiquement, ils sont prêts. Mais comme je t'ai dit, le Sénégal, c'est une autre dimension. Nous avons eu la chance de démarrer très bas parce que nous n'avions pas l'effectif. Souviens-toi, nous avions pratiquement 9 atteints du contaminé au Covid là.
C'est vrai.
9 au départ.
Oui.
Et nous avons le meilleur joueur du Sénégal qui s'occupe de l'animation offensive, le jeune Sarr, qui était encore malade, qui a dû aller à Barcelone, puis retourner en Angleterre. Et maintenant, depuis hier, il est au Cameroun avec l'équipe du Sénégal.
Quand on va rentrer dans le vif du sujet, donc les principaux quarts finalistes, je fais allusion, le rescapé, pour ne pas dire le novice, les scorpions de Gambie, qui vont affronter le Cameroun. Quelques lectures concernant la Gambie face à l'ogre camerounais à domicile, 5 fois champion d'Afrique.
Moi, je ne serais pas surpris d'aller encore à la série de pénalty avec la Gambie. Tu sais pourquoi? C'est une équipe homogène. des jeunes qui ont joué en U17 et qui ont été sacrés champions d'Afrique. Qui ont gardé pendant 5 ans, 6 ans, la même ossature, qui fait que quand tu les vois jouer, tu sens nettement qu'ils sont complémentaires. Parce que si le Cameroun rentre dans des problèmes de complexe en disant « bon, je suis meilleur », ils auront des surprises. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est une Gambie très conquérante, une Gambie qui joue un beau football.
Ousmane Dieng, correspondant permanent de Africa Venus Sport, pays de Sadio Mané, on va faire la lecture du deuxième match de quart de finale, c'est-à-dire les étalons du Burkina Faso face à la Tunisie, qui est une fois champion d'Afrique en 2004. La lecture.
Oui, d'accord. Je dirais que la Tunisie a les faveurs des pronostics. Parce que sortir comme ça le Nigeria, qui était que tout le monde voyait comme étant la meilleure des équipes. Ils sont jeunes, ils savent manier le ballon, et ils ont su faire un bloc et arriver à déjouer totalement le Nigeria. Alors, on ne peut pas ne pas les porter favoris face au Burkina Faso.
Tu as bien fait d'analyser ça, parce que Nigeria, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont quelque chose de particularité.
Mais moi, je me disais que c'était ils avaient la Coupe en main, déjà.
C'est vrai. Au niveau de Nigeria, c'est la seule équipe qui a gagné trois victoires au niveau des matchs de poule.
Trois victoires. Avec aisance. Ils pouvaient même mettre 4-5 buts aux différentes équipes qu'ils ont rencontrées.
Tu arrives à grands pas. Dimanche, c'est-à-dire 30 janvier à 16h, l'ogre égyptien face au Maroc. Oui. Les Marocs, on les appelle là-bas les lions de l'Atlas. On dirait que ces lions-là, ils ont envie de rugir face au pharaon.
Le Maroc est la seule équipe à avoir loué son hôtel, donné congé aux employés de l'hôtel et qui sont à 100% dans un site avec des Marocains, une alimentation marocaine, un service marocain. Ça, c'est un pays qui a fait des projections très très précises. C'est bien pour gagner la coupe. Il ne faut pas se tromper. Le Maroc a déjà affiché ses ambitions au départ. Il ne voulait pas connaître les histoires de Covid. Il ne voulait rien connaître. Ouais. J'ai vu, il y a eu des problèmes d'intoxication, il y a eu des problèmes de Covid partout. C'est... Et du point de vue tactique avec Ali Lovic, c'est une équipe qui va se battre, qui va vendre chèrement sa peau pour essayer de gagner le trophée. Ah oui, par contre, on ne voit pas encore l'effet Salah dans cette équipe de l'Égypte. Soit les gens font un marquage rigoureux sur lui, à 2-3 parfois, et à ce moment-là, s'il n'y a pas un autre qui se détache pour porter le jeu de notre côté, en attendant que Salah puisse trouver une solution, ça va faire comme le Sénégal au début, des matchs à 0-0, ou en tout cas au mieux 1-0.
Et vous avez fait le bon choix radiophonique sur Radioactive. Donc on va faire la lecture finale. Tu es content, tu souris, tu rougis, tu rugis, le lion. Le lion de la Teranga Sénégal qui va affronter la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, c'est un pays lusophone de culture espagnole. Donc dimanche 30 janvier à 20h, est-ce que le lion va rugir face aux équato-guinéens?
Pour aller vite avec cette équipe-là, ils ont peur du Sénégal. Jusqu'à présent, les différentes équipes qu'ils ont rencontrées, ils ne jouaient pas très fréquemment la Guinée équatoriale. Alors que le Sénégal les a battus à Dakar 3-0 et chez eux 2-0. C'est une équipe qui va avoir peur au départ, qui certainement va se retrancher derrière pour au moins essayer de contenir les Sénégalais et procéder par contre. C'est la première fois dans cette compétition que le Sénégal va aligner son attaque type. Parce que si vous aviez suivi les statistiques du Sénégal, l'animation offensive du Sénégal dépend uniquement de Sarr, qui sur les côtés est un garçon extrêmement rapide. Le Sénégal a souffert de l'absence de ce garçon-là. Nous n'avions qu'un Sadio Mané.
Qu'est-ce que tu penses de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations?
Moi, personnellement, je vois le Cameroun, je vois le Maroc, je vois la Tunisie et je vois le Sénégal. C'est la première fois que le Sénégal joue très mal d'ailleurs. Aucune cohésion, rien du tout. Si on arrive à ce stade de la compétition, vraiment, c'est une bonne façon pour nous. Parce que, souvenez-vous, Koulibaly, il a raté les deux premiers matchs du Sénégal. Donc on a plus ou moins colmaté. Garna Gueye, notre milieu de terrain titulaire, qui est en même temps un joueur du Paris Saint-Germain, il nous a manqué aussi. Tu vois, on a eu trop de petits problèmes qui ont fait que le Sénégal n'a jamais aligné son équipe type durant cette CAN. Et l'occasion nous est donnée à cette quart de finale de montrer pourquoi nous sommes premiers en Afrique.
Rappelons que les Lions de la Teranga, deux fois finalistes en 2002
et
2019. On peut dire que voilà, c'est le finaliste en titre. 2019. Finaliste en titre, si je peux m'exprimer.
Voilà. Exactement. Exactement.
Merci Ousmane Dieng.
Voilà, mais je remercie et mon bonjour à toute l'équipe technique là. On va se voir dimanche pour voir au moins. Comment ça va se passer?
Ah oui. Voilà. Dimanche 30 janvier à 20h, Sénégal Guinée équatoriale. Voilà. Merci beaucoup Ousmane Dieng, le correspondant permanent de Africa 22 Sport au pays des Lions de la Teranga. Merci Ousmane.
Merci à toi aussi et à toute l'équipe technique. Merci.
Merci beaucoup.
Après Omar Dieng au Sénégal, Yao se tourne vers ses spécialistes. Tout de suite, Ayman et Alain Elio avec Yao pour parler de la CAN. Et juste après, avec bien évidemment James Kerel, notre spécialiste du football africain.
Comment va Ayman?
Ayman, il va très bien. Et comment va Yao?
Ah, ça, j'aime bien la voix là. La voix de Lion de l'Atlas. On va rentrer dans le vif du sujet où on voit bien que le Maroc qui va affronter l'ogre égyptien, toi qui es fan de Lion de l'Atlas, j'aimerais avoir tes analyses techniques concernant la lecture de cette affiche.
Alors, tout d'abord, c'est une satisfaction pour tous les Marocains d'être en quart de finale. Ayant le statut d'outsider, je pense que très peu nous voyaient en quart de finale. Et aujourd'hui, pas mal nous voient aller loin dans la compétition. Depuis 2004, on n'a pas gagné un seul match dans les éliminations directes. Donc déjà, pour tous les Marocains, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Maintenant, on se dit qu'on n'est pas loin. On est en quart de finale, on se projette de l'avant. Et on voit que la finale n'est pas très loin. Donc voilà, nous... Ce match de l'Égypte, ça va être un match vraiment très difficile. Il n'y a pas de match facile en Afrique. Et voilà, maintenant l'Égypte, on sait qu'ils ont Mohamed Salah. Nous, le problème du Maroc, beaucoup de gens, de passionnés du football africain ont reflété que le Maroc fait un beau jeu en Afrique, un jeu technique avec un Sofiane Boufal et un Achraf Hakimi qui sont au top de leur niveau. Et nous, en tant que Marocains, on est satisfaits de les voir à ce niveau-là. Maintenant, on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là et pourquoi pas aller chercher cette Coupe d'Afrique. Maintenant, on joue l'Égypte et l'Égypte, c'est un adversaire qui est difficile. Il y a Mohamed Salah, va pas falloir louper les occasions. Voilà, l'Égypte, ça reste un gros, comme l'évoquait Yao, l'Égypte, c'est un géant d'Afrique. Et franchement, moi, je vous dis, si on sort l'Égypte, on a notre mot à dire. Je vais pas m'exprimer plus que cela, mais voilà, si on passe l'Égypte, je nous vois aller au plus loin, sincèrement.
On rappelle, on sait ce dimanche à 16h, les pharaons d'Égypte qui vont affronter les Lions de l'Atlas. On a la chance d'avoir un autre sage du football, vraiment du sport, du ballon rond, qui va nous donner une lecture intégrale vraiment de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment va monsieur Elio?
Ah, il va très bien.
J'aime bien la voix là.
Il va très bien. Donc là, j'écoutais Ayman. C'est vrai que je rejoins un petit peu Ayman sur le Maroc. C'est vrai que le Maroc m'a bien plu, surtout le dernier match. Alors, on parlait des attaquants de Boufal et Hakimi, qui est un défenseur attaquant. Mais je soulignerai aussi la charnière centrale qui est excellente. Cesse et puis Aguerre. C'est naturellement, Aguerre, c'est un Rennais, donc c'est normal que je dise ça, mais non. Sans être chauvin, j'ai trouvé l'équipe du Maroc très bonne. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont affronter l'Égypte. L'Égypte va se réveiller parce que on n'a pas encore vu l'Égypte. Sincèrement, j'ai pas été impressionné par l'Égypte. Maintenant, ils sont passés. Ils ont pu écraser la Côte d'Ivoire. Bon, au pénalty, naturellement.
Mohamed
Salah a marqué le dernier but. Mais par contre, le Maroc. Mais après, il faut voir un petit peu toutes ces équipes là qui arrivent en quart de finale, parce que On a été déçus qu'en huitième de finale, certaines équipes ont été éliminées, le Nigeria, Mali et puis Côte d'Ivoire. On pensait qu'ils allaient peut-être passer. Et en fin de compte, maintenant, il s'avère qu'on a le Sénégal contre la Guinée équatoriale, qui a eu un peu de chance contre Mali. Il faut dire comme ça que l'arbitre n'a pas été toujours à la hauteur, je pense. Et on a le gros choc Maroc-Égypte. Ça pourrait être une finale, je pense. Après, il y a Burkina-Tunisie. Et la Gambie, la belle équipe, peut-être la plus belle équipe de cette CAN collective.
Les Scorpions.
Hein. Ah oui, les Scorpions, ils ont forcément, je ne connais pas trop les joueurs, hein, ils ne jouent pas dans de grandes équipes, mais par contre, la Gambie, c'est impressionnant au niveau collectif. Maintenant, ils vont tomber contre les Lions indomptables, donc le Cameroun, ils sont chez eux, mais ils ne m'ont pas impressionné non plus. Donc, et par contre, ils vont peut-être nous surprendre. C'est pour ça que là, je pense qu'on arrive à un tournant. Moi, je trouve que la CAN n'est pas assez lancée. Ça manque de. C'est vrai qu'il y a les conditions atmosphériques. Hein. Il y a du 30 degrés, il y a sûrement une chaleur humide, tout ça. Je peux pas juger parce que je suis dans ma Bretagne et il fait plutôt du 1 que du 30. Hein. Donc, et je pense que ça joue beaucoup, mais il va falloir que ça s'en. Parce que là, on n'apprécie pas les 0-0. C'est vrai que hier, c'est 2-0-0. Alors, on aime bien les buts et surtout. Le football africain nous apporte toujours de bonnes choses. Il y a des bons joueurs. On les voit plutôt, je sais pas, mais on les voit créatifs, on les voit marqueurs, tout ça. Et là, on le voit pas. Donc, espérons hein, pour nous tous, hein, pour tous les fans du football africain, je prends les Marocains, les Tunisiens, tout ça, qu'il y a des beaux matchs.
À partir de quart de finale, donc les choses vont aller très très vite parce que lorsqu'on voit la lecture. Elles étaient 24 depuis le 9 janvier dernier. Et là, alors nous parlons, Eman, elles sont 8. Et les 8, on peut dire que la balance sportive ou la parité sportive est scrupuleusement respectée puisque 4 ont gagné la CAN et 4 n'ont jamais gagné. Tout le monde va sortir ses flèches pour abattre sportivement l'autre qui est en face.
Tu as tout à fait raison, mon cher ami Yao. À l'heure actuelle, je pense que personne ne peut nous dire qui va gagner la CAN. Dire que le Guinée équatorial soit en quart de finale avec la majorité des joueurs qui jouent en D4 espagnol, je pense que personne l'aurait pronostiqué. Il y a la Gambie aussi et qui font une Coupe d'Afrique fantastique et que je tiens à répéter, toutes les équipes les petites équipes qui se donnent à fond et qui se battent pour leur nation, eh ben elles seront en quart de finale, voire en demi-finale, et pourquoi pas la gagner. Donc voilà, je fais allusion à la Zambie en 2012, c'est ça, Yao.
Les Chipolos Polo, les Chipolos Polo, Zambie, ouais.
Ça me fait penser à cela, le même parcours que la Gambie. Je fais allusion à la Guinée équatoriale qui a beaucoup de réussite. Ces nations-là, voilà, faut faire attention.
On va conclure avec notre sage. Allons aller ce samedi à 17h. Les Scorpions face à l'ogre camerounais et les étalons qui prendront le relais tout à l'heure aussi et demain à 20h face à la Tunisie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une suspense puisque la Gambie, alors nous parlons, ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont rien à perdre, la Gambie, naturellement. Ils sont là, ils sont heureux, je pense. Ils vont affronter l'ogre camerounais. Enfin, naturellement, le Cameroun est favori, mais sait-on jamais. Ah ben, par contre, si on veut projeter un petit peu, hein, il faut quand même se lancer. Je pense, moi je donnerai mes quatre favoris. Hein. Mmh. Je pense que le Sénégal va enfin se réveiller parce que on est un peu déçu aussi du Sénégal, malgré la composition d'équipe, parce que vous prenez les joueurs un par un, ça fait une sacrée équipe. Mais elle n'est pas très bonne collectivement. Elles vont peut-être se réveiller. Après, il y a le Maroc-Égypte, donc l'un des deux. Moi, je mettrais plutôt le Maroc, mais maintenant, Maroc-Égypte, ce sera de gros, hein, de toute façon. Oui. Et je pense que la Tunisie vaincra Burkina et le Cameroun battra la Gambie. Mais ce n'est qu'une supposition. On est dans cette Coupe d'Afrique, il y a tellement de surprises. On a dit déjà au premier tour, l'Algérie, Ghana éliminé. En huitième de finale, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire. Donc c'est surprenant. Il va peut-être avoir une grosse surprise cette année. Pourquoi pas? Pourquoi pas, et puis ça sera bien. C'est bien. C'est bien pour le foot.
On va avoir le mot de la fin pour notre ami fan de Lyon, de l'Atlas, Eman. Alors, ton pronostic.
Moi, déjà, Cameroun, ils vont passer. Ils sont poussés par Samuel Eto'o et la CAF. À mon avis, je ne les verrai pas passer en demi-finale. La Tunisie, logiquement, va passer en demi-finale. Le Sénégal, comme le dit Alain, je les vois se réveiller. Car la Guinée équatoriale, si tu ne joues pas bien contre eux, tu auras du mal à marquer. Et le Maroc, Égypte, sans être chauvin, Je dirais le Maroc. Et on a une revanche à prendre sur eux en 2017. On s'est fait sortir par eux en quart de finale. Et leur entraîneur, Kairos, nous a battu à la Coupe du Monde contre l'Iran. Ouais. Donc on a une revanche à prendre contre eux. Et j'espère de tout cœur que le Maroc aille en finale. Ça serait très beau pour nous. Mais comme le dit Alain, il y a le Sénégal et le Cameroun. Mais plus le Sénégal comme favori et la Tunisie.
Merci beaucoup pour ces analyses techniques du ballon rond. Pour la plus grande fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Tu sais que les choses
Voilà, dernière partie de l'émission. Nous rejoignons James Kerel, grand spécialiste du football africain. Bonsoir, James.
Bonsoir, Gaël. Bonsoir.
James, forcément, on va parler de la CAN ensemble, mais on va parler également du Nigeria, qui est le grand coup de cœur pour beaucoup de spécialistes, le grand coup de cœur de cette CAN 2021.
Oui, tout à fait. C'est une nation qui revient sur le devant de la scène. Ils ont eu un creux. Tout le monde connaît effectivement cette fameuse génération qui a tellement plu lors notamment des mondiales qu'elle avait effectué auparavant avec des Okocha et bien d'autres. C'est une équipe qui a marqué son empreinte pendant des années. Peu à peu, c'est disparu. Ils n'ont plus été sur le devant de la scène, même sur leur propre continent. Ils ont eu du temps ils ont mis du temps à reconstruire. Ils arrivent avec une nouvelle génération de joueurs qui est très talentueuse. J'ai eu l'occasion au Nigeria de voir ces jeunes futurs talents et j'avais déjà été impressionné par leur aisance technique, bien sûr, mais aussi athlétique parce que ce sont des joueurs qui sont très costauds. Et au Nigeria, il y a plutôt la province du Nord qui fournit vraiment de très très gros joueurs. Et c'est une équipe a toujours gardé une exportation intéressante sur les destinations. T'as des joueurs qui sont à Rotterdam, t'en as qui sont passés par Fulham, t'en as d'autres qui sont passés par Watford. Enfin, dans cette équipe-là, il y a quand même une grosse expérience aussi. T'as Sanusi qui était au FC Porto. Tu avec le gardien, donc je disais qui était à Rotterdam, et t'as aussi de très bons joueurs comme Simon devant qui lui est à Nantes, vous le savez ça. Et c'est vrai que cette génération là est en train de créer quelque chose. Il y a une grosse envie, mais aussi le peuple nigérien qui vraiment était à fond derrière son équipe, était très déçu finalement bien sûr du résultat de leur dernier match. Ils commençaient beaucoup à rêver, mais pour avoir échangé, ils sont très confiants pour l'avenir et surtout l'avenir de cette équipe-là qui possède de jeunes joueurs comme Enda dont je vous avais parlé, qui lui joue en Afrique du Sud, qui est un arrière central gauche qui est avec de très grosses qualités, mais beaucoup de joueurs vont suivre dans l'avenir pour cette équipe-là. Enfin, franchement, je vois de très belles choses se profiler prochainement.
Comme il y a deux semaines, comme il y a deux semaines, James, on va échanger avec ton ami, hein, notre grand spécialiste Alain Lio, qui est à nos côtés ce soir. Alain, qu'est-ce que tu peux dire, toi, James? Comment tu as trouvé cette équipe nigériane?
Oui, bonsoir, James.
Salut,
Alain. Oui, ça va. Ce que je dirais, c'est vrai que comme tout le monde, suite au premier tour, naturellement, on voyait le Nigeria au-dessus du lot, on les voyait comme des favoris. Par contre, j'ai quand même été déçu, moi, par cette huitième de finale contre la Tunisie, parce que la Tunisie a fait un bon système, et c'est vrai, j'ai été surpris par la Tunisie aussi, hein, qui n'avait fini que troisième au premier tour de son groupe. Et ce que j'ai été un peu déçu du Nigeria, mais je sais qu'il y a des possibilités, parce qu'on les connaît un petit peu, tous ces joueurs-là, Ikinesho, Moses, tout ça.
Oui, tout à fait.
Mais par contre, ils ont joué individuellement. Ils n'ont pas joué beaucoup en équipe ce match-là.
Oui, alors Alain, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ils sont venus avec une composition en 4-2-3-1, tu vois. Et la Tunisie, elle, jouait sur un système en 4-3-3. Ça les a beaucoup gênés. Et j'ai trouvé que la relation milieu-attaque n'était pas très, très, très intéressante sur ce match-là. on a trouvé des individualités, mais pas forcément un collectif qui pouvait répondre à la Tunisie. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai été déçu d'un point de vue collectif, parce que sur leurs individualités, ça n'a pas été suffisant. Et je pense que la Tunisie, il faut leur tirer quand même un grand coup de chapeau, parce que ils avaient quand même beaucoup d'absence, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Ils sortent sur un match effectivement avec un adversaire qui n'était vraiment pas qui était vraiment très intéressant, et malgré la possession de balle, hein, parce que sur c'est 53% de mémoire pour le Nigeria et 47 pour la Tunisie. C'est vrai que ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Après, c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense que ils vont avoir des regrets, parce qu'ils auraient pu certainement montrer autre chose. Et quand on voit le tour de poule, ils ont vraiment été très très bons. Moi, je les ai trouvés impressionnants.
Ah oui, entièrement d'accord. C'est pour ça que on les voyait bons.
Oui, on s'est vu tout de suite. Ouais. On s'est tous dit, waouh, ça.
Ouais, mais
ça,
ce que j'avais dit initialement. Dans une ancienne édition, j'avais dit comme ça, c'est sûr. Généralement, le premier tour, il est toujours faussé. Hein. Et les équipes qui sont très fortes au premier tour, elles n'arrivent jamais. C'est affolant, hein, ça. C'est malheureusement, hein, parce que là, naturellement, on n'a pas la science exacte, heureusement. Exact. Et c'est, dans le Nigeria, c'est vrai qu'ils nous avaient impressionnés. Puis là, ils sont tombés sur un os. Tunisie a sûrement bien préparé son match, parce que défensivement, j'ai trouvé une charnière centrale excellente. Il s'énervait pas, il s'appliquait. Bon, j'ai bien aimé la Tunisie. En plus, c'est vrai qu'ils étaient amputés de plusieurs joueurs. Là, ils vont revenir, hein, Kazri, tout ça, ils vont revenir. Tout donc, je pense que la Tunisie a son mot à dire.
Oui, et puis t'as des joueurs qui ont été vraiment très bons. En Tunisie, sur la Tunisie, t'as eu Misagni qui a été plutôt bon. T'avais Skiri qui a été très fort.
Après, l'ancien joueur de Montpellier, là. Skiri, c'est ça.
Ouais,
hein.
Excellent. Ils ont été vraiment très bons. Parce que chaque joueur a pratiquement été à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire qu'ils ont tous individuellement, ils ont été bons, et collectivement, ils ont été meilleurs que le Nigeria. Donc le résultat, si tu veux.
Bon, tu connais le coach de Tunisie, là? Parce que je pense qu'il a bien préparé son match, hein, le coach de la Tunisie.
Alors, oui, Zafar El-Kaderi. Non, je ne le connais pas trop. Je sais que c'est quand même quelqu'un qui n'a entraîné que sur sur des clubs tunisiens ou émirats. Je crois qu'il était aux Émirats. Mais par contre, c'est vraiment vraiment une équipe qui aussi a besoin de ça, parce que tu sais, le championnat de Tunisie, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Ça se passe pas forcément bien dans le championnat de Tunisie. Et je crois que l'équipe tunisienne avait besoin aussi, elle, tout comme le Nigeria, hein, de revenir sur le devant de la scène, parce que ce sont deux équipes quand même qui ont un passé quand même important, qui sont des icônes du territoire africain, qui avaient disparu. Et là, actuellement, ils reviennent. Et on sait que maintenant, il n'y a plus de petite équipe. Hein, on l'a vu sur les autres matchs. Et ils ont besoin, effectivement, de ce renouveau-là, et aussi de travailler avec leur fédération de façon à stabiliser les choses, de mieux structurer les championnats, de mieux structurer l'ensemble de leur football.
James, je vous coupe un instant. On se régale à vous écouter, toi et Alain, ce soir sur la CAN. Je voudrais quand même t'écouter sur le Nigeria, revenir un petit peu, puisque une délégation de jeunes Nigérians va arriver au mois de juin, et je crois bien que tu vas t'en occuper. C'est pour le tournoi André Coquelin, qui aura lieu tout près de Fougères au mois de juin. Explique-nous un petit peu ce beau projet d'accueil d'une équipe nigériane.
Oui, c'est très intéressant. C'est donc des amis, notamment Sylvain Leluyer, qui est passé en avant-guingant à la section féminine, que je connais depuis fort longtemps, qui est quelqu'un qui a travaillé sur ce tournoi là, sur le tournoi André Coquelin. Ils font, qui se répètent donc tous les ans, et cette année il y a encore un beau plateau. Ils viennent de conclure toutes les équipes. Il y a Arsenal qui doit venir, il y a la Juve, et dans l'idée Sylvain m'a fait appel pour pouvoir faire venir des équipes étrangères. Alors bien sûr, en premier lieu, j'avais, là où j'interviens, sur une très grande académie en Chine. La Chine aurait pu venir, mais vous savez bien tous les deux que c'est difficile de déplacer à l'heure actuelle ces équipes-là. Alors, le Nigeria, au vu du relationnel que j'ai avec eux, ont tout de suite répondu présent. Ils sont heureux heureux. Ça va être un véritable rêve pour les garçons, pour les jeunes garçons, de venir découvrir un autre football, de se frotter à des adversaires de différents styles et du sol européen. Ils en parlent déjà, ils sont un peu dans une euphorie de tout cela. Et j'ai eu leur responsable académique qui est très proche de moi depuis déjà pas mal de temps, qui m'en parle chaque jour en disant qu'il considère ça comme un cadeau du ciel, comme quelque chose qui va les marquer. Et moi, j'ai hâte que ce tournoi-là, André Coquelin, puisse découvrir, et tous les équipes qui viendront, puisse découvrir cette jeunesse nigérienne qui est au-delà du football, qui est merveilleuse et qui, comment, nous apportera aussi de la joie de vivre. Et en tout cas, ils sont très motivés, très intéressés de venir, et ça leur permettra aussi d'avoir une certaine coopération avec d'autres clubs dans les pays étrangers. Et je pense que ça me fait penser à des choses que j'avais vues déjà au tournoi de Plomelin, où tu as par exemple des joueurs du territoire asiatique qui étaient venus et qui en ont gardé des souvenirs incroyables. Et je pense qu'en des jeunes participe à ce genre de tournoi, il ne l'oublie jamais. Ça me rappelle un peu, si vous voulez, à nous trois qui sommes en train de parler ensemble, l'Eurocadet à Saint-Brieuc, vous vous rappelez?
Bien sûr.
On n'a jamais oublié ça.
Bien sûr.
On n'a jamais oublié. Ben pour eux, c'est la même chose, quoi. Mmh. C'est la même chose.
On va conclure cette émission et cet entretien avec Alain, que j'adore, avec les Comores, qui est votre coup de cœur, avec des costards marocains. On avait Younes Zerdou. D'ailleurs, je te remercie de nous avoir mis en relation, James, avec Younes. Et puis, il y a eu ce but de Youssouf Mchangama. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alain?
Ben, les Comores, c'est vrai que ça a surpris, parce qu'en fin de compte, c'est la première fois qu'ils sont venus, qu'ils viennent à la CAN. Donc c'est une petite île à l'est de l'Afrique là. Et je trouve ça super, mais en plus ils ont tenu la dragée haute face au Cameroun, hein. Ils méritaient pas, c'est dommage qu'il y ait eu un expulsé d'entrée, mais autrement je pense que les Comores, ouais, ils ont montré une belle image, hein. Très belle image. Et puis Mchangama, c'est sûr que moi je suis naturellement pas trop aventiste, mais je vois pas trop les matchs encore. On me dit toujours du bien de ce joueur-là, Mchangama, qui a montré beaucoup de bonnes choses en France, parce qu'il a fait plusieurs clubs. Mais par contre, je pense qu'il y a d'autres Comoriens qui tiennent la route. Hein.
Qu'en penses-tu, James?
Je suis tout à fait d'accord. Younes, ça fait 5 ans qu'il est avec eux. Il a vu cette progression constante avec cette équipe des Comores. Et puis, c'est une équipe vraiment qui vit, mais qui vit bien. J'ai eu la chance, la semaine dernière, qu'il puisse m'appeler en direct. Vous savez, au moment où se tire le pénalty pour la Sierra Leone, donc qui est arrêté, le pénalty tiré par un joueur qui était en MLS, là. Et finalement, Younes a eu ce réflexe génial de m'appeler en direct pour voir la réaction de tout le staff, de tous les joueurs. Ça a été un grand, grand moment que j'ai partagé justement avec lui. Et on a discuté, bien sûr, après, suite à ça, par texto, par rapport à la situation, parce qu'on ne peut pas ignorer l'histoire des gardiens. C'était tout juste incroyable de se retrouver face au pays hôte avec 100 gardiens, avec finalement un joueur de champ qui joue bien, lui en France, à Ajaccio notamment, qui se retrouve dans les buts. Et quand tu vois le match, ils perdent un joueur tout de suite sur carton rouge. Tu te dis, waouh, ils vont se faire manger, quoi, bien manger. Et finalement, comme quoi dans le football, il se passe toujours des choses incroyables. Et effectivement, ce 2-1 restera dans les annales. C'est une situation particulière. Mais bravo aux Comores, parce qu'ils nous ont fait rêver. Moi, ils m'ont fait rêver, en tout cas, avec ce football-là. Et je trouve que cette CAN, on va parler bien sûr que d'un point de vue footballistique, puisqu'on est là pour ça. Et c'est toujours un plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est peut-être pour moi moi, je le pense franchement, la compétition la plus dure à jouer, parce que les conditions étaient très compliquées. D'un point de vue physiologique, c'est très compliqué. La santé, jouer sur des chaleurs pareilles, répéter les matchs, c'est quand même quelque chose de très dur. Et je trouve malgré ça qu'on voit des matchs très intéressants. Et je pense qu'on va avoir une belle fin de CAN. Et je crois que Gaël doit être content, puisque le Sénégal continue. Et je crois qu'il mise sur le Sénégal.
Moi aussi.
James, merci infiniment pour ces mots de bon sens, pour cette passion que tu partages avec nous. Et puis, je te remercie d'avance. On va faire un petit teaser pour nos invités, pour nos amis d'Africa 22 Sport, pour nos auditeurs. Tu nous prépares, je crois, une petite surprise pour la semaine prochaine avec un de tes contacts au Nigeria. Je vais juste dire trois lettres qui vont mettre sur la voie. PSG. PSG Nigeria. Je vous laisse deviner. Ouais, je vous laisse deviner quel sera notre invité d'honneur sur cette dernière émission de la CAN. En plus de Denis Gouavec qui sera bien évidemment présent, l'illustre Denis Gouavec. Donc ça sera un très grand moment à ne pas rater la semaine prochaine. Bonne soirée et merci beaucoup James.
De rien, merci à vous et toujours enchanté d'échanger et surtout de votre accueil. Et puis bah écoutez, de bonnes choses et je crois qu'on va encore se régaler, on aura de quoi, j'espère, échanger sur cette magnifique CAN qui nous laissera de toute façon de très beaux souvenirs encore, je pense.
Pour cette conclusion de la 20e édition de Africa Men de Sport, Africa Men de Sport a une pensée sportive au drame de Stade Lembe au Cameroun. Sans oublier, du côté des étalons de Burkina Faso, j'ai une pensée pour Jean-Modeste Ouédraogo, avec tout ce qui s'est passé au Burkina aussi. On a un élément inaliénable et fédérateur qui nous unit, qui s'appelle la passion du sport à travers le football. Et tant qu'il y a ce César, je crois que tout est possible et tout est fédérateur au profit du peuple et au profit du sport. Et Africa 22 Sport défendra sportivement et culturellement au profit du plaisir, au profit du sport, pour dégommer les bêtises humaines à travers ce qui nous arrive ce temps-ci. Comme on dit là-bas, vivons sport et surtout, soyons faiblés.